pourquoi la race ne se réduit-elle pas à une couleur de peau? En 1696, les fonctionnaires du Conseil des Indes à Madrid prirent connaissance d'un document qui provoqua leur stupéfaction. Dans une affaire judiciaire jugée en 1688, il était mentionné un témoin décrit comme « Morisco de Nación », terme qui désignait dans le langage castillan de l'époque un chrétien d'origine musulmane. Les plus hautes autorités du pays se demandèrent alors comment un homme de cette condition avait-il réussi à se transporter jusque dans cette colonie qu'on appelait encore les Indes. Le roi d'Espagne envoya une demande d'information au président du tribunal de Guadalajara en Nouvelle-Galice, le Mexique actuel. Celui-ci répondit qu'il s'agissait d'un malentendu, car le terme « morisco » désignait en Nouvelle-Galice les enfants nés d'un Espagnol et d'une mulâtresse blanche. Chrétien d'origine musulmane pour les uns, métis à la peau sombre pour les autres, l'exemple du morisco montre que le vocabulaire pour désigner les races mélangeait deux types de références. Le premier concernait la couleur de peau, et le second renvoyait au principe généalogique de l'aristocratie espagnole, on appelle le droit du sang. Depuis le Moyen-Âge, dans le milieu des marchés esclavagistes, l'individualisation des personnes réduites en esclavage se faisait le plus souvent, non pas par leur lieu de provenance, mais par leur aspect physique et, au premier chef, par la couleur de leur peau. L'essor de la traite eut pour effet de diversifier ce vocabulaire de la couleur. Toute une série de termes chromatiques, comme « negro »,« blanco »,« olivastro », »,« loro », qui signifie de la couleur du laurier, furent alors régulièrement utilisés. Mais cette manière de nommer les hommes coexistait avec une taxinomie au contenu généalogique. Son but n'était pas de décrire, mais de dire la qualité des individus en mobilisant pour cela le vocabulaire nobiliaire sur le lignage et le sang. L'importance qu'a prise la question des diverses formes de métissage s'est focalisée sur une interrogation lancinante. Est-ce que, grâce à des apports successifs, le mélange des sangs permettrait de revenir au point de départ, c'est-à-dire à la couleur d'origine, que ce soit le blanc ou le noir? Ce genre de préoccupation se retrouve à la même époque chez les auteurs des Antilles françaises. En 1724, par exemple, le père Jean-Baptiste Labat affirma que ce qu'il appelait le défaut des mulâtres cesserait à la quatrième génération, pourvu que l'on continue à les unir toujours avec des blancs, car si on les alliait avec des noirs, ils retourneraient dans le même nombre de générations à leur première noirceur. Ce processus de blanchiment ou noirciment des mulâtres était dû, toujours selon Labat, au fait qu'une couleur se fortifie à mesure qu'elle s'unit à une couleur de même espèce et diminue à mesure qu'elle s'en éloigne. Comme on le voit, le discours racial qui s'est imposé en Europe dans la première moitié du XIXe siècle a été amplement préparé à partir d'un épicentre mexicano-antillais où les spécificités coloniales ont été exprimées grâce à un vocabulaire combinant des références à la couleur de peau et des références généalogiques concernant le sang et le lignage.